battu les records d'affluence pour une comédie musicale. C'est une musicale Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à notre époque. Hier, il y a un film qui va sortir, là, encore, fait par nos chrétiens sur la prière, sur comment les toxicomanes vont être restaurés uniquement par la prière. Un film grand public, fait par nos chrétiens. Il y a 15 jours, il y a déjà une année de film sur les miracles. Il y a cette association que vous connaissez, Sage, qui a décidé, c'est des catholiques de Lyon, de diffuser au maximum tous les films évangéliques en France. De faire en sorte qu'il puisse être dissimulé dans les salles. J'ai un ami qui a fait un film qui était chef d'entreprise, qui a dit, mais je vais mettre de l'argent et je vais investir pour faire des films. Et il a fait un film sur un film grand public avec Romain Duris, sur la profession. Il est en train de sortir un nouveau film. C'est bien fait des choses qui nous étonnent. On parle de réveil, on s'attend à des choses particulières. On va parler avec une amie qui dit, quand je priais pour le réveil, je pensais que toujours ça allait se passer de telle manière, comme ça s'est passé aux États-Unis, en Angleterre, il y a 100 ans. Et puis c'est bien, on est en train de faire des choses totalement différentes. Mais soyons conscients du temps que nous vivons. Et hier, en présentant ce film, le présentateur est bon chrétien, tout ça sur une chaîne d'info. Et puis il dit, de toute façon, aujourd'hui, au post-office, les films religieux qui parlent de la foi, c'est ça qui marche le mieux. Amen. Elle mettait en scène, c'est quelqu'un qui croyait, elle dit, mais c'est ce qui m'intéressait. Ils sont interrogés tous. On sent qu'il y a une soif, ils cherchent à comprendre. Et ils disent, ben oui, il y a un mystère, on n'arrive pas à comprendre, mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Et autant il y a 10 ans, 15 ans, ça aurait été très critique. On a parlé de la foi, et surtout quand il y avait des problèmes de miracles et tout, alors cette fois, c'était, on n'en parlait pas la figure. Et là, c'était avec beaucoup de respect, y compris la communauté musicale. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de tolérance, beaucoup de laisser les gens choisir. Voilà, je voulais juste partager ça en préambule de cette prédication, parce que prions, on va parler de Martin Luther King tout à l'heure et de ces 15 jours. Le peuple a soif, le temps est là, et soyons au rendez-vous. Et soyons nous, en tant qu'assemblée, au rendez-vous que le Seigneur nous donne, et donne à ce pays. Et je pense vraiment qu'il y a des rendez-vous divins qui sont devant nous. Et merci Seigneur en tout cas pour ce qu'il fait et prions pour tout cela. Alors, nous on continue et ce n'est pas du tout notre. J'ai fait fort, hein. Vous mettez un plateau de fromage avant le repas. Bon, tiens, mais qu'est-ce que vient faire le fromage? Transition un peu brutale avec le cinéma. On va continuer, nous, l'épître de Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du chapitre 12 des Épîtres aux Corinthiens. Donc, j'ai donné comme titre à cette prédication notre diversité et notre richesse. Amen. Et on va voir combien pour Paul c'était important. Je propose qu'on ouvre notre Bible, qu'on ouvre sa Bible. Ça va bien. Et qu'on lise ensemble ce chapitre. Alors, vous savez, des fois, dans la Bible, les chapitres, ils sont. Il faut couper la Bible. Les chapitres ont été coupés des fois au milieu d'un sujet. Là, pour le chapitre 12 et le chapitre 13, c'est assez bien organisé. Et après avoir, dans le chapitre 11, parlé des questions du repas et de la Sainte Cène et de la tenue au niveau de la Sainte Cène, Paul aborde un autre sujet qui est les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais c'est le même Saint-Esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre un don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était toute ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont les plus nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Et tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, et ensuite, ceux qui ont don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Voilà. Quand on lit, quand on écoute, parce que c'est bien des fois c'est bien d'écouter la parole de Dieu et de la lire, parce que c'est ainsi que Paul s'est adressé aux Corinthiens. Et on voit bien combien nous pouvons être concernés les uns et les autres, et nous tous, membres de l'Église, par cet enseignement et par ce qu'il dit. En introduction, on va reprendre quelques versets. Et je vais m'arrêter déjà sur ce premier verset, que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On le sait qu'on fait Alpha et qu'on fait le week-end Alpha. Et chaque fois, vous avez ce témoignage. Le week-end Alpha, c'est le temps du Saint-Esprit. Et très souvent, c'est là que la personne a cette révélation de Jésus-Christ. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet, qui n'est pas à ma gloire, mais bon, ce n'est pas le but. Quand j'ai été nommé pasteur, on a, pas l'obligation, mais il est bon et très bien de rencontrer les autres pasteurs de son assemblée, de la ville, et de les visiter, et de faire connaissance. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter plusieurs pasteurs des autres assemblées chrétiennes de Nîmes. Et donc j'ai été voir le pasteur de la Combe des Oiseaux, on appelle ça la Combe des Oiseaux parce que c'est rue des Combes des Oiseaux, c'est une église baptiste, et le pasteur il est parti, il était super, celui d'actuellement est encore super, et puis on passe un bon moment ensemble et on partage ensemble, et ça se passe très bien. Puis à la fin de la rencontre, je lui dis combien nous partageons beaucoup de choses ensemble. Bien sûr, l'amour de Dieu. Notre foi, mais particulièrement, c'est vrai avec les églises baptistes, l'amour de la parole de Dieu, notre foi dans son autorité pleine et entière, notre foi dans la nouvelle naissance, notre foi dans le baptême des adultes, tout ça c'est des points communs. Et puis dans mon flot, je dis, bien sûr il y a la question du Saint-Esprit parce que nous avons et j'arrête. Et là je dis, mais je suis en train de dire une énormité. Et je me rappelle de ces versets.
Qu'est-ce que j'étais en train de leur dire, au fond, grosso modo, nous avons le Saint-Esprit, puis vous ne l'avez pas. Waouh, c'est stupide. C'est stupide. Parce que personne sur cette terre, pas une église, ne peut professer le nom de Jésus-Christ s'il n'a pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et là, j'ai été repris, parce que je me suis rendu compte que de l'orgueil, de nous, dits pentecôtistes ou charismatiques, comme si on avait mieux compris les choses que les autres, comme si on était un peu supérieur aux autres, parce que nous, nous avons en plus le baptême du Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit. Ah, on l'a entendu, puis bon, peut-être que vous avez moins entendu, mais c'est des choses qu'on a pu entendre. Il y avait un peu d'orgueil dans mon propos. Et combien, et y compris dans mes responsabilités de pasteur, combien j'ai pu découvrir les autres églises, y compris celles qui ne sont pas charismatiques, et de voir combien le Saint-Esprit agissait, agit dans l'Église avec un grand E depuis 2000 ans. Nous en sommes une partie, nous sommes un élément, une branche. Mais en aucune manière, on pourrait être les dépositaires absolus, parfaits, de la parole de Dieu. Oui, il est important qu'on se rappelle que le Saint-Esprit, que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Et j'ai découvert, une fois de plus, et c'est un peu le sujet de cet enseignement, combien l'orgueil spirituel peut nous envelopper si facilement. On dit le péché nous enveloppe. Vous savez, il y a cette phrase dans la Bible. Prenez garde que le péché nous enveloppe. Prenons garde que l'orgueil spirituel nous enveloppe. C'est si facile. Et on est si facilement pris dans cet orgueil. Continuons cette lecture. Hop là. Ah oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Vous avez remarqué combien dans ce chapitre, Paul va répéter les choses. Là, il parle 3 fois diversité, 4 fois le même esprit, le même corps. Il va répéter les phrases. Quand on lit au début ce chapitre, on peut dire que c'est un enseignement sur les dons et sur les dons de l'esprit. Voilà ce que Paul nous dit sur les dons de l'esprit. C'est exact. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais le fond de la pensée de Paul n'était pas d'enseigner sur les dons, mais d'enseigner sur la diversité et sur le corps, et sur notre respect de la diversité. Et il est vraiment important que nous puissions bien comprendre combien pour Paul, cette question de la diversité était essentielle. De la diversité dans le corps du Christ. Et pourquoi il l'aborde ? Parce que là aussi, comme sur la Sainte-Seine, comme sur d'autres sujets, cette mauvaise compréhension, ce refus de la diversité a amené la division et la querelle dans l'Église. Comme entre les Églises, mais au sein de notre Église, de nos assemblées, le jugement, le manque de diversité peut nous amener à la division. Et c'est ça dont Paul veut parler. Et s'il l'aborde à travers les dons, c'est pas par hasard. S'il l'aborde par rapport à ce que Jésus, enfin l'Esprit Saint, fait, et décide qu'un tel va prophétiser, qu'un tel va faire cela, c'est pas par hasard. Parce que ça renvoie à pourquoi lui et pas moi. C'est une question assez ancienne d'ailleurs, dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi lui, il prophétise et pas moi ? Pourquoi lui, il chante et parle en langue et pas moi ? Pourquoi, voilà, mon fils qui était parti, il dit, « Ouais, les autres, ils prient, ils ont des paroles et moi, j'ai rien. » Et puis on sentait, « Donc, je suis nul et je suis un naze. » Vous n'avez jamais senti des choses comme ça ? Moi, je vous expliquerai, j'ai senti des choses comme ça, mais vous verrez. Pourquoi il est spirituel ? Comme si, parce qu'on a reçu un don, on était plus spirituel. Et qu'on se compare, qu'on se juge, qu'on se jauge. Ah, quel homme de Dieu il est. On dit ça plus facilement d'homme de Dieu que femme de Dieu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a autant de femmes de Dieu que d'hommes de Dieu. En tout cas, vous êtes tous des femmes et des hommes de Dieu. Vous le savez, ça. Il prie pour les malades et ils sont guéris. Merci Seigneur. On n'a pas tous reçu les mêmes dons, dit Paul. Mais tous sont utiles. Et il n'y en a pas d'un supérieur aux autres. À la fin du chapitre, et là aussi c'est des choses que j'ai compris assez récemment, quand il dit en premier les prophètes, en premier les apôtres, les prophètes, etc. Nous, tout de suite, dans notre bonne tête d'occidentaux, on met ça en hiérarchie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis au niveau 2, je suis au niveau 3, je suis au niveau 4, je suis au niveau 1, je suis apôtre, je suis au niveau 1. La pensée biblique, la pensée hébraïque n'est pas une pensée qui monte comme ça, elle est toujours comme ceci. On va en reparler. Et c'est tout simple, c'est que quand il dit en premier apôtre, évangéliste et prophète, c'est de l'ordre de la création des églises. Et quand on crée une église, bah c'est plutôt les gens qui vont la fonder, c'est les gens qui vont prophétiser, qui vont annoncer l'évangile, puis le pasteur il arrive derrière et il va organiser l'église. Alors que nous on le voit de manière hiérarchique, c'est simplement un ordre chronologique. Vous voyez comme on est un peu tordu, parce qu'il n'y a pas que moi qui a pensé que ça pouvait être hiérarchique. Et c'est chronologique. Et Gérard, il va être devant pour évangéliser. Et puis Norbert et Pascal, ils vont derrière pour former les personnes et leur donner un enseignement à ceux qui ont été évangélisés. Mais si Gérard n'est pas devant, ça ne marche pas. Ce n'est pas une hiérarchie entre Gérard et Norbert ou moi. C'est simplement un ordre chronologique de l'action du Saint-Esprit dans son Église. Je prends cet exemple-là pour vous montrer combien on a des choses à changer dans notre tête. Il n'y a pas de hiérarchie dans le Seigneur. Pour revenir, pourquoi lui et pas moi? Eh bien, évidemment, si moi je reste du côté de la cuisine, si moi on ne fait pas attention à moi, c'est que j'ai moins de valeur. Si moi je ne monte pas sur la scène, c'est que j'ai moins de valeur. D'ailleurs, vous avez lu dans la Bible? Alors c'est un peu gênant ce que je vais dire. Là, il dit, c'est ceux qui ont le moins d'honneur qu'il faut honorer. Donc si je suis sur scène, c'est que je suis moins honorable et qu'il faut que moi. Mais c'est un peu ça. Il prend les choses les plus. Mais c'est ce que dit Paul plusieurs fois. Il dit, je prends les choses les plus faibles et les plus viles pour les mettre en devant. C'est une réalité. Et puis, cette petite voix intérieure continue. Pourquoi lui, pas moi? Et là, ça devient plus problématique à dire. Mais est-ce qu'il parle vraiment au nom de Dieu? Est-ce que c'est vraiment une parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment un don? Parce que quand on connaît sa vie, est-ce que c'est Dieu qui a vraiment parlé? Parce qu'il n'a pas vraiment une vie géniale? Si vous voyez sa page Facebook, c'est pas glorieux. Ses habits non plus. C'est pas un saint. Puis tu sais, d'ailleurs, je connais des histoires sur lui. Je sais pas si je dois te le raconter, mais je te le raconte quand même. Tu n'es pas obligé d'écouter, mais tu m'écoutes quand même. Vous voyez comment ça démarre, tout ça? Et comment on part de frustration, d'amertume à la convoitise, y compris religieuse, qui alimente médisance, jugement, division. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est tout ça ce qui se passe à Corinthe. Qu'à Corinthe, d'accord. Que toute amertume est Paul. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis le verset d'avant, mais il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit » juste avant ce verset. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que là aussi, de nouveau, il revient au Saint-Esprit. « Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, clameur, calomnie, espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » On parle aux chrétiens à l'intérieur de l'Église. Et puis, je vous ai mis ce verset-là parce que c'est le premier crime sur cette terre était un crime religieux. Ah oui. C'était sur une dispute religieuse que s'est fait ce premier crime. J'aime à réfléchir. C'est est-ce que Dieu l'aime plus que moi? Et donc je le tue. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage s'est-il abattu? Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi lui et pas moi? C'est ce que Caïn s'est posé. Pourquoi lui reçoit et pas moi? Si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte et tes désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. La convoitise amène le péché consommé amène la mort. Waouh, Jacques est... Mais c'est une réalité. Et pourtant, Paul ne nous dit pas ça. Il dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, le même esprit. Nous avons tous, et il dit cette phrase qui peut paraître une utilité. La phrase, elle peut paraître, je suis utile. Ah oui, ça peut paraître un peu basique. Mais bon, ça nous ramène peut-être bien tous à notre place d'utilité. Mais nous avons tous une utilité, une partition à jouer dans l'orchestre. Un rôle, une place irremplaçable. Comme dit Paul, si nous voulons de le pied, non seulement vous ne serez pas un bon pied, mais l'œil manquera. Non seulement vous ne serez pas ce que Dieu n'a pas demandé que vous soyez, mais si vous n'êtes pas ce que Dieu a demandé que vous soyez, ben ça manquera. Si vous voulez être un pied, mais que Dieu est une main, il manquera une main dans l'Église. Si vous voulez être un pied et que Dieu voulait que vous soyez un cœur, il manquera un cœur dans l'Église. Au lieu de nous ressembler, recherchons à être celui que Dieu a voulu que nous soyons. Depuis toujours, nous sommes tous uniques, tous individuellement uniques. Faits à son image, nous sommes tous des originaux et pas des copies. Une église de clones, c'est ce que c'est? C'est une secte. Quand tous les gens se ressemblent, et ici vous ne vous ressemblez pas, et y compris, et je le dis moi-même, peut-être qu'on ne serait pas dans la même église et qu'on ne partagerait pas, on n'aurait pas eu l'occasion de se rencontrer et de se connaître. Parce qu'on aurait des centres d'intérêt différents et que on n'a pas les mêmes. Alors peut-être avec certains j'aurais les mêmes centres d'intérêt, puis avec d'autres je n'aurais eu jamais l'occasion de vous rencontrer et vice versa. Dans notre vie, dans notre enfance, par nos parents, nos professeurs, ce n'est pas toujours cela que nous avons entendu. Au contraire. Tu dois faire ceci comme ton frère. Regarde ta mère, en parlant à une fille. Fais comme elle. Les professeurs. On est toujours dans le jugement, la comparaison, nos carnets de notes. On est jaugé au regard des autres. On nous sélectionne par rapport aux autres. On nous compare, on nous estime, on nous jauge. Ça n'arrête jamais. Il y a quelques jours, il y avait, mais j'ai déjà dit ça, l'histoire de la publicité pour les femmes qui s'est passée la semaine dernière. Hein, mais j'ai trouvé ça bien, parce que combien, y compris dans notre société, à travers la publicité, on met un jugement sur voilà ce que doit être un homme, voilà ce que doit être une femme. Et on met des niveaux d'excellence incroyables. Une femme, ça doit être une belle femme, même à 40 ans, elle doit être très belle, elle doit être PDG, mais elle doit être super élégante, elle a aussi une magnifique mère de famille, elle sait tout sur la famille, etc. Elle a allaité ses enfants jusqu'à 5 ans, mais tout en étant businessman et prenant l'avion entre New York et Los Angeles, tout en étant une épouse extraordinaire, une amante merveilleuse, voilà, top. Waouh, vous êtes une femme. Et pour les hommes, c'est pareil. Alors, on doit être fort, mais on doit être tendre en même temps. On doit être gentil, mais on doit être... Enfin, on va retomber. Et on nous compare. Et à ce petit jeu-là, on s'en sort jamais. Et on n'est jamais à la hauteur. Et ça nous amène frustration et amertume. Et je ne voudrais pas que dans l'Église, nous nous comparions et nous soyons sur ce même modèle que dans le monde. Et nous ne sommes pas appelés à être un super modèle en disant « Ah, moi j'ai vu quelqu'un, mais je ne peux pas être comme lui, donc je suis rien. » Ce n'est pas juste. Je vais vous donner un petit exemple personnel pour faire illustrer qui m'est arrivé il y a quelques années, enfin même précisément 22 ans, et qui m'a permis pour moi de réaliser à la fois de sortir de mes complexes et de savoir qui j'étais, quels étaient mes dons. Ah, énorme, à tout savoir. Alors, j'ai un très très bon ami, et j'ai toujours la joie d'être mon meilleur ami, il s'appelle Patrick, c'est à travers lui d'ailleurs que je me suis converti, mais ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Et Patrick est aussi, Seigneur a fait que nous soyons associés et partenaires de travail pendant 40 ans. Et on se voit toujours régulièrement, et c'est un grand cadeau de la part de Dieu que j'ai cet ami. Patrick est le filleul d'Antoine, il n'est pas là, c'est encore mieux. Le parrain, c'est mieux, oui. Le parrain d'Antoine. Et donc, on passe un Noël chez Patrick, à Saint-Raphaël, et il y a donc 22 ans, donc Antoine avait 2 ans, voilà, un truc comme ça, 2 ans, 3 ans, voilà, peut-être 23 ans, enfin bon, peu importe. Et Patrick, donc, achète un cadeau pour son filleul. Et il a acheté un petit train. Et alors, vous ne le connaissez pas, on ne se ressemble pas du tout. On a travaillé ensemble, mais on nous appelait Laurel et Hardy parce qu'on était vraiment très différents. Et Patrick, quand il fait quelque chose, il le fait à fond et tout est maîtrisé de A à Z. Il n'y a pas la place à l'erreur ni à l'imprévu. Donc, étude de marché précise sur les trains. Savoir quels étaient les bons trains, les mauvais trains, etc. Et savoir s'il y avait des pièces, si la peinture allait bien résister, s'il y avait des problèmes, si la pile, il ne pouvait pas avaler la pile, s'il y avait des pièces qu'il n'avait pas... Ouais. Tout était nickel. Et puis, il explique tout ça. Parce que Patrick explique les choses. Et moi, en entendant, je dis... J'aurais pas pensé au centième de tout ça. Et puis je me dis, je suis vraiment naze, moi. Et puis je commence à me dévaloriser. Et puis comme c'est comme ça dans le travail, y compris avec Patrick, où lui il est super organisé, super méthodique. Et puis moi j'essaye de faire comme lui, mais j'arrive pas. Et c'est catastrophique. Et je dis, bah, je m'en sortirai jamais. Donc vraiment, c'est pas une bonne image de moi à ce moment-là. Et je suis admiratif. Je ne le convoite même plus, parce que je trouve que mon cas est désespéré, mais je me dis, je m'en sortirai jamais, quoi, je ne serai jamais comme lui. Bref, Patrick offre le petit train, il est là, j'ai toujours, c'est écrit pourquoi, le petit train, il installe, gamin super content, il m'a dit qu'il avait beaucoup joué avec. On essaie, et ça ne marche pas. Il ne démarre pas. Il vérifie les piles, vérifie tout. Comment ça? Et comme nous sommes dans une noble et sainte assemblée, je ne vous dis pas les mots qui sont sortis à ce moment-là sur ce train et sur les vendeurs et sur les marchands de jouets en général et sur le monde entier. La part de Patrick, ça ne marche pas. Et moi, je suis vraiment désolé parce que c'est mon ami et je l'aime bien, mon copain. Je pose la main sur Patrick et je lui dis, je suis vraiment désolé, mais c'est pas grave. D'abord, Antoine lui est déjà parti, il a 2 ans, bon. Et puis il y a le train là devant moi, et puis il y a Patrick là, et puis je lui dis, je suis vraiment désolé. Et puis en même temps, je pose la main. Et il démarre. Et là, Patrick. Et là, j'ai compris à quoi je servais. Et j'avais un rôle, parce que sans moi, ce train n'aurait jamais pu démarrer. Et pour ça que je l'ai gardé, ce petit train, et je l'ai gardé sur mon étagère dans mon bureau, parce que ben voilà, ça peut paraître ridicule, mais là j'ai compris qu'elle était, entre guillemets, ma plus-value, y compris dans nos équipes professionnelles que nous étions, et qu'on était très complémentaires, et que si l'un était très organisé, là il y avait d'autres, avait des idées, des façons de penser qui allaient être complémentaires, qui allaient permettre qu'on soit dans notre travail, entre autres, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble, très très complémentaire et très efficace. C'est comme si on dit, ben, on voit une bouteille, il y en a qui voient d'un seul côté, ben, quand Patrick voyait un morceau, je voyais l'autre morceau. Et à nous deux, on voyait tout du problème. Et donc on a été, dans notre travail, on était tous les deux chrétiens, et on a été une équipe gagnante. Parce qu'il avait ses qualités, et j'avais aussi mes qualités. Et qu'à partir du moment où j'ai accepté d'être dans mes qualités, et pas seulement à être frustré des qualités de l'autre, et vice-versa, eh ben, on a associé nos qualités et on a, ben, nos défauts ont été compensés l'un et l'autre et on a fait une super équipe. Donc je vous dis ça parce que si j'avais voulu être Patrick, j'aurais jamais pu être Patrick. J'aurais été un sous-produit, ça n'a jamais été bon. Par contre, si je suis ce que je suis, que ce soit dans l'Église ou que ce soit ailleurs, et si je reste ce que je suis, eh ben, je peux apporter ce que je dois apporter. Et donc, je suis convaincu que nous avons tous un don particulier dans l'Église. Et que nous avons tous un rôle particulier. Et que peut-être que vous êtes de ceux qui, s'ils n'appuient pas à un endroit, le train ne marchera pas. Ça n'empêchera pas qu'il faudra avoir quand même tout vérifier avant ou après. Parce qu'autrement, si vous appuyez sur le train, mais il n'y a pas de piles, ça ne marchera de toute façon pas. Donc, ça ne justifie pas le fait qu'il ne faut pas acheter des piles. Mais il faut les deux. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et nous avons vraiment à comprendre et accepter et à savoir ce que nous sommes. Être complémentaires les uns des autres. Je ne peux pas faire les choses tout seul. Nous ne pouvons pas animer une église tout seul. Nous sommes l'homme orchestre, le pasteur qui sait tout faire. Un autre exemple là aussi, pour montrer que c'est quand même mieux qu'on s'adapte. Juste après ma conversion, je vais dans une église qui était dans ma ville, à Nantes, et donc j'arrive, et tout de suite le pasteur me voit et dit « Toi, tu vas être pasteur !» Bon, alors, vous savez, c'est des phrases comme ça, des fois, vous ne savez pas quoi en faire. Bon, je dis « Oui, je sais, le Seigneur m'a déjà dit. » Il dit « Bon, bah, très bien, donc on va te former. » Et la première, dans notre église, pour être pasteur, il y a tout un processus. Et le début, je vous promets que c'est une histoire vraie. C'est les futurs pasteurs doivent conduire la louange et conduire les chants dans l'assemblée. Et là aussi, je me suis dit, mais soit Dieu a pas mal parlé, soit je... Donc, et le pire, c'est que j'étais obéissant, j'ai dit, ben oui, je vais le faire. Après, à grâce de Dieu, Dieu a ouvert d'autres portes et j'étais fait un collège biblique, et etc. Mais j'étais prêt à chanter faux. Et il y avait effectivement des responsables du pasteur qui chantaient faux épouvantablement et qui conduisaient la louange le dimanche matin. Et apparemment, ça devait être la règle. Ça ne pouvait pas être autre chose que le pasteur ou le futur pasteur qui chante. Mais si nous faisons comme cela dans l'assemblée, on brise les gens. On ne les fait pas entrer dans leur vocation. Ça fait penser à cette histoire dans la Bible où David a reçu un appel et il sait que Dieu il est prêt à aller battre Goliath. Et les chefs et les guerriers qui sont autour de lui disent « Stop ! Si tu dois aller lutter contre Goliath, il faut que tu fasses comme ceci, comme cela. Et prends l'armure de Saül. » On n'a pas été exact, mais incontestablement, vraiment, entre la taille et la corpulence de Saül et celle de David, il y avait une grande différence. Imposer l'armure de Saül à David, c'était totalement l'handicapé. Ça ne lui permettait pas d'être ce qu'il était lui. Et avec cette armure, il aurait perdu à tous les coups. Il aurait été totalement inopérationnel. Il n'était pas dans ses dons, il aurait été dans ses faiblesses. Parce que son don, c'était une fronde. En combat rapproché, il savait très bien que vis-à-vis de Goliath, la seule façon de gagner, c'est qu'il soit très loin de Goliath. Parce que s'il était à un mètre, là, la puissance de frappe de Goliath était immense face à David. La seule façon que David avait de gagner, c'est de le tenir à distance et de l'atteindre de très loin, et de le toucher avant que Goliath arrive. Donc ce n'est pas d'une armure qu'il avait besoin, mais d'une fronde. Et là aussi, apprenons à être diverses. Ne n'imposons pas à nous-mêmes, aux autres, aux jeunes, alors ils ne sont pas là, on pourra refaire cet enseignement aux jeunes, parce que ça pourrait les intéresser, des choses qui ne les concernent pas. Apprendre à respecter notre diversité, nos différences. Être capable de les accueillir, nos différences, de voir nos points de vue différents. Et de ne pas penser que nous avons raison obligatoirement. Et moi, le premier, j'ai toujours un effort à faire, parce que par nature, ben, moi, je vais penser d'une manière, et quand les gens commencent à me parler, je dis, non, écoute, alors je ne le fais pas toujours, mais essaye de comprendre comment cette personne part et te parle, et qu'elle a vu le point de vue différemment, qu'elle n'a pas vu le train de la même manière que toi. connaître ses dons, entrer dans sa vocation, être au service du corps. Si vous vous posez des questions, regardez déjà ce que vous savez bien faire, y compris dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est les mêmes dons qui sont dans l'Église. Ils ne sont pas différents. Dieu n'a pas fait deux personnalités, une dans l'Église et une... Vous prenez soin des gens dans la vie, c'est que vous pouvez peut-être prendre soin des gens dans l'Église. Vous avez envie de convaincre les gens que le match de foot était très bien, vous êtes peut-être très bien pour convaincre que Jésus-Christ est le Seigneur. Vous avez des capacités pour être didactique et organisé, vous avez super bien organisé votre maison, d'ailleurs la Bible l'en parle, vous pouvez être des super organisateurs et dans l'Église. Je pourrais continuer à l'envie. Si vous ne le savez pas, nous sommes là, et autour de vous, demandez à vos amis. Nous sommes en tant que responsables, et ça c'est vraiment notre mission, en tant que pasteur, de voir quels sont vos dons et de vous encourager, non pas à vous imposer, mais à ce que vous grandissiez dans vos qualités. Il y a une place et un besoin pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Énormément de choses. Des visites, de prier, de louer le Seigneur, d'aider matériellement, de soutenir des gens qui sont dans des difficultés, de donner des cours du soir, de bricoler, d'enseigner, tellement de choses à faire. Ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un don particulier, des qualités particulières, d'une vocation, et que Dieu a prévu notre place dans l'Église particulière. Ne cherchons pas à être autrui, cherchons à être ce que nous sommes, et ce que Dieu avait voulu, et soyons... que nous sachons que nous sommes complémentaires les uns des autres. Amen. Alors, c'est trop beau, il y a quand même des conditions. Est-ce que par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des petites lignes, vous savez, comme dans les contrats? Est-ce qu'il y a des petites lignes au contrat. Oui, Paul rajoute un codicille qui est au chapitre 13. Qui est la seule chose qui est nécessaire, que tout soit fait dans l'amour. Et là, de nouveau, la figure littéraire, enfin le style littéraire du chapitre 12 et 13 est très particulier, hein, avec des répétitions permanentes. Et là, Paul, comme il a dit, le même esprit, le même esprit, le même esprit. Et là, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour. La seule chose que nous avons besoin, et c'est le meilleur antidote contre la convoitise, et le regard négatif les uns sur les autres, c'est d'aimer. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait qu'on accepte nos différences et nos divergences. C'est l'amour qui accepte que nous ne soyons pas tous pareils. Et qu'au lieu de nous juger en disant « Ah ben lui, il est incompétent totalement, il ne sait même pas faire les choses comme ça, ou ceci, comment il... Moi, à sa place, voilà. » Mais on est chacun différent. Et on est tous complémentaires les uns des autres. Amen. Je vais terminer. Et alors, ça c'était pour rigoler. Pourquoi je vous avais mis un plateau de fromage? C'est vraiment pour rigoler. Mais je vous raconte l'histoire aussi parce qu'elle m'a fait tellement rire. Et puis je vais terminer sur ça. Il y a quelques années, on était, je me rappelle, c'était pour un. On était parti dans l'Aveyron accompagner les enfants à un tournoi d'échecs, bon, deux jours. Et donc on était à un petit restaurant, un petit hôtel à Saint-Afrique. Vous savez, c'est à l'époque où il y a encore des hôtels avec des super petits restaurants jolis où pour 10 euros ou 13 euros, on va manger comme des rois. Et à la fin, il y a un plateau de fromage et bientôt, bien sûr, que du Roquefort. Là, je n'ai pas trouvé qu'avec du Roquefort. Et il y a un maître d'hôtel, un peu comme Antoine Facon, voilà, super le maître d'hôtel. Et puis, il commence à nous décrire les 13 Roqueforts. Moi, je ne savais pas que les Roqueforts étaient différents les uns des autres. Et ils sont tous différents. Et il termine chaque fois sa phrase en disant « Tous différents, mais tous excellents !» Alors, je ne vais pas vous comparer à du Roquefort. Ça serait peut-être mal vécu par vous. Mais vous êtes tous différents et tous excellents. Amen. On peut le répéter, tous différents et tous excellents. Vous êtes d'accord? Vous êtes tous différents et tous excellents. Allez, soyez